Vous écoutez RFI, les 13h à Paris, 11h en temps universel. RFI Midi, présenté par Anne Cantner. Bonjour Anne.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. RFI Midi, le tour de l'actualité dans le monde avec nos correspondants, avec nos envoyés spéciaux. Ce mardi 29 avril, l'Espagne essaie toujours de comprendre ce qui a pu provoquer l'immense panne d'électricité d'hier. Ce matin, la vie a repris son cours normal, mais on ne sait toujours pas exactement ce qui s'est passé. Il ne s'agit pas d'une cyberattaque, ça c'est sûr. Le gestionnaire du réseau électrique écarte cette piste. Nous appellerons notre reporter dans le nord de l'Espagne dans une demi-heure. Le Premier ministre canadien promet de parler à Donald Trump de pays souverain à pays souverain et cette fermeté de ton, c'est ce qui a permis à Mark Carney de remporter les législatives d'hier, lui qui a appelé dans son discours de victoire à ne jamais oublier la trahison américaine. Analyse des résultats et de ce qui attend maintenant le Premier ministre dans notre rendez-vous d'Haïti et des Amériques à 13h temps universel.
RFI Midi.
Nous parlerons aussi des prisonniers fantômes de la Russie, ces milliers d'Ukrainiens capturés, détenus dans des centres secrets sur le sol ukrainien ou russe. La journaliste ukrainienne Victoria Roshina a enquêté pendant des mois. Cela lui a coûté la vie, mais l'organisation Forbidden Stories a repris et poursuivi son travail. Avec nous en studio dans une demi-heure, le fondateur de Forbidden Stories. Une partie de l'Asie et du Moyen-Orient suffoque. Les températures des derniers jours battent des records de chaleur, jusqu'à 12 degrés de plus que d'habitude en Afghanistan, en Inde ou au Pakistan, 46 degrés en Irak et dans le sud de l'Iran, 47 en Arabie Saoudite. C'est totalement anormal et nous en parlerons dans un peu plus d'une heure avec notre invité. Enfin, il y a du football à suivre ce soir. Le PSG se déplace à Arsenal pour la première demi-finale de la Ligue des Champions. On ira à Londres dans trois quarts d'heure voir quelle est l'ambiance à quelques heures du match. Vous avez le programme. Bienvenue. Et d'abord le journal. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour à tous.
Avec le verdict des urnes au Canada.
Oui, comme prévu, les élections législatives au Canada ont tourné à l'avantage du camp libéral et anti-Trump, emmené par l'actuel Premier ministre Mark Carney. Victoire historique et encore impensable il y a quelques mois quand les conservateurs étaient donnés favoris. Mais le ton de la campagne, dominé par les menaces de guerre commerciale et d'annexion de Donald Trump, a joué en faveur des libéraux. Juliette Chénion, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Hier soir, dans son premier discours, Mark Carney, qui est un économiste qui a dirigé la Banque centrale canadienne, a promis de s'imposer face aux États-Unis.
Le président Trump tente de nous briser, cela n'arrivera pas, en effet, affirmé Mark Carney lors de son discours de victoire hier soir. Une victoire partielle d'après les projections, car le libéral risque de manquer de quelques sièges au Parlement pour obtenir la majorité et donc de devoir faire alliance avec d'autres partis pour éviter un gouvernement minoritaire. Hier, Mark Carney a appelé à l'unité du pays. Il prédit des mois difficiles et des sacrifices à venir pour les Canadiens. En face, le conservateur Pierre Poilievre, favori déchu, assure vouloir travailler avec le vainqueur pour défendre le pays face à des menaces américaines qu'il juge irresponsables. À l'international aussi, les réactions se multiplient. Félicitations de l'Union européenne et du Royaume-Uni qui comptent renforcer leurs liens avec Ottawa. Tout comme le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lui, voit en Mark Carney un allié pour la paix et un soutien militaire important. La Chine et l'Inde se disent aussi prêtes à développer la relation jusqu'ici tendue avec le Canada. Quant à Donald Trump, il n'a pas encore réagi, mais peu probable qu'il félicite Mark Carney. Hier, jour de vote, le président américain avait à nouveau appelé à faire du Canada le 51e État des États-Unis.
Merci Juliette Chénion. J'ajoute une autre réaction, celle d'Emmanuel Macron. Le président français félicite Mark Carney pour sa victoire. Il a, je cite, hâte d'œuvrer à ses côtés, de se serrer les coudes. Tu incarnes un Canada fort face aux grands défis de notre temps, ajoute sur X Emmanuel Macron. Autre grand titre dans l'actualité, c'est le retour à la normale sur la péninsule ibérique. Après la coupure géante d'hier, l'électricité est maintenant quasiment rétablie en Espagne et totalement au Portugal. D'après les premiers éléments à leur disposition, l'opérateur du réseau électrique espagnol, de même que le gouvernement portugais, exclut l'hypothèse d'une cyberattaque. On assiste à un retour à la normale progressif dans ces deux pays, touchés par une coupure géante dont la durée a été de 10 voire 20 heures selon les régions. Hier soir, dans les villes d'Espagne, le retour du courant a souvent été accompagné d'applaudissements et de cris de joie après une longue journée sans électricité, mais aussi le plus souvent sans transport, ni internet. internet ni téléphone mobile. On reste en Espagne, précisément à Valence, 6 mois, jour pour jour, après les inondations qui ont fait 228 morts. Une manifestation visant à demander des comptes aux autorités régionales dans la gestion de la catastrophe a dû être annulée in extremis par mesure de sécurité. 6 mois après, la situation reste difficile pour de nombreux habitants, notamment ceux qui ont des difficultés de mobilité. Reportage d'Élise Gazangel.
Six mois après le passage du torrent de boue dans les villes proches de Valence, des milliers d'habitants sont encore sans ascenseur. Pour les plus vulnérables comme Charo Pastor, 81 ans, qui vit avec Maria, sa fille handicapée, l'aide de la Croix-Rouge est indispensable.
Tout est encore très lent parce qu'il commence à peine à réparer l'ascenseur, mais ça fait des mois qu'on souffre. Ne pas avoir d'ascenseur, ça me détruit. Il y a 4 étages. Et ma fille handicapée a besoin d'aller dans sa structure d'accueil. C'est le principal pour moi.
Tous les jours, les volontaires de l'organisation descendent et remontent Maria grâce à une chaise à chenilles électriques. Oscar Segovia est l'un d'entre eux.
Il reste encore beaucoup à faire. Ici, je te dirais que 40% des ascenseurs ne fonctionnent toujours pas. Beaucoup ne sortent que grâce à nous. Et parfois, j'ai des nouveaux usagers qui ne sont pas encore sortis depuis les inondations d'octobre.
Au total, 3000 ascenseurs seraient toujours hors service dans la région et il faudra encore attendre plusieurs mois avant un retour à la normale. Élise Gazangel, Aldaya, RFI.
L'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement de tirs de drones explosifs. Ils auraient fait la nuit dernière au moins 3 morts, dont 2 dans la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine. Les violences continuent avant une hypothétique trêve. Vladimir Poutine a décrété 3 jours de trêve du 8 au 10 mai à l'occasion des célébrations de la victoire russe contre l'Allemagne nazie. En Syrie, au moins 13 morts dans des affrontements interreligieux près de Damas. Les affrontements ont été déclenchés par l'enregistrement sonore d'un homme de confession druze maudissant le prophète Mahomet. Il a provoqué la colère d'hommes armés sunnites. Ce sont les dernières violences meurtrières en date liées à la religion en Syrie. Les craintes des minorités ne cessent de croître depuis qu'une coalition islamiste a pris le pouvoir. En France, un ancien rebelle syrien, Majdi Nema, comparé depuis ce matin devant la cour d'assises de Paris. Il est jugé pour complicité de crimes de guerre commis dans son pays entre 2013 et 2016. L'homme âgé aujourd'hui de 36 ans conteste les accusations. Il affirme n'avoir eu qu'un rôle limité au sein de son groupe salafiste. À l'époque, Abla Junaidi, ce groupe actif dans la banlieue de Damas était l'un des plus puissants groupes armés de Syrie.
Mejdi Nema, alias Islam Alouch, un ancien officier de l'armée de Bachar el-Assad, avait rejoint le Liwa al-Islam, devenu Jaïch al-Islam, dès le début de la révolution en 2011. La faction salafiste, grâce à ses soutiens financiers, saoudiens notamment, devient une puissance militaire et financière de première importance dans la Ghouta orientale, affrontant le régime, mais aussi des groupes rivaux, dont l'État islamique. Ce pouvoir favorise les pires exactions, incarcération et torture, répression des voix discordantes. Au cœur du procès, il y a les disparition forcée de 4 militants des droits de l'homme, dont Razan Zetouné. Le FBI y compris estime que le groupe en est le premier suspect. Cette femme, laïque, gênait la volonté d'instaurer un régime basé uniquement sur la charia. Jaïch al-Islam avait institué ses propres systèmes judiciaires et carcérales dans la Ghouta. Des massacres contre des civils lui sont imputés. Également la conscription de mineurs au sein des lionceaux de l'islam. Autant de crimes de guerre dont ses avocats vont tenter de le disculper, et d'abord en cherchant à démontrer un rôle limité de Majdi Nema au sein de Jaïch al-Islam.
Abla Junaidi, alors que le bilan dépasse les 52 000 morts à Gaza, Benjamin Netanyahou commencerait à envisager la fin de la guerre d'ici à octobre prochain. C'est en tout cas ce que rapporte un journal israélien, le journal Hayom. Jusqu'à maintenant, le premier ministre israélien a toujours refusé d'évoquer la fin des bombardements et de l'incursion de ses troupes à Gaza, répétant que la guerre allait être longue et difficile. Il changerait de position au moment où Washington exprime sa volonté de mettre un terme à cette situation. En Iran, il a fallu aux pompiers presque 3 jours de lutte pour maîtriser l'incendie qui a ravagé le principal port du pays. Selon les autorités, le feu s'est déclaré samedi suite à une explosion attribuée à une négligence. Il y a au moins 70 morts et des centaines de blessés.
La politique en France, et Bruno Retailleau dans la tourmente.
Oui, le ministre de l'Intérieur est face à une pluie de critiques depuis la mort d'un jeune Malien tué à coups de couteau dans une mosquée vendredi dernier. La gauche, et pas seulement elle, lui reproche une réaction trop tardive et d'une sorte de deux poids, deux mesures. Le point avec Victorien Villaume.
Il a fallu 2 jours à Bruno Retailleau pour se rendre à la mosquée où s'est déroulée l'attaque. Bien trop long, dit la gauche, qui plus généralement estime que le ministre alimente un racisme anti-musulman en France. L'insoumis David Guiraud.
Quand il fait des meetings, il crie à bas le voile. Bruno Retailleau produit un discours qui accable les Français musulmans, ça c'est un fait. Si ça avait été un Français catholique ou un Français juif, il se serait déplacé dans l'heure.
Les crimes antisémites et les crimes anti-musulmans sont traités de la même manière, balaye la porte-parole du gouvernement, Sophie Prima.
Bruno Retailleau est très déterminé à lutter contre toutes les formes de violence contre quelque communauté que ce soit, y compris bien entendu sur nos compatriotes musulmans. Tout ça mérite un peu plus de hauteur.
Pierre-Alexandre Anglade dénonce lui aussi une instrumentalisation de la part de la gauche, même si le député du camp présidentiel reconnaît que Bruno Retailleau a commis une erreur.
Oui, le ministre aurait dû se déplacer plus tôt. Mais c'est pas ça le fond du débat. La seule chose qui doit nous intéresser, c'est de préserver l'unité dans un pays qui est de plus en plus divisé sur les questions religieuses et identitaires et qui menace la cohésion nationale.
J'ai été l'un des premiers à réagir, mais je n'ai pas voulu me précipiter sur place car j'attendais des éléments de l'enquête, se défend Bruno Retailleau.
Victorien Villaume du service politique. Enfin, en football, le Paris Saint-Germain vise une finale en Ligue des Champions 5 ans après la première perdue contre le Bayern Munich. La qualification passe par un bon résultat ce soir à l'Emirates Stadium sur la pelouse d'Arsenal. Le club londonien est invaincu chez lui depuis 2 saisons dans cette compétition. Arsenal-Paris Saint-Germain en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Coup d'envoi 21h, 19h TU. Match à suivre en intégralité sur RFI. Bonne journée sur notre antenne. Je vous laisse en compagnie d'Anne Cantner.
Merci Gilles Moreau, à tout à l'heure.
RFI, la France à midi.
On va se pencher d'abord sur la politique plus dure du gouvernement français concernant les prisons et les détenus, avec notamment cette dernière annonce, choc, du ministre de la Justice. Gérald Darmanin dit vouloir faire payer aux détenus une partie des frais liés à leur incarcération. Marie Cazadebé, le ministre a donné des explications hier soir à la télévision.
Oui, Gérald Darmanin était l'invité du journal de 20h de la chaîne privée TF1 hier soir, et à cette occasion, il a expliqué avoir envoyé une lettre aux agents de l'administration pénitentiaire pour leur annoncer sa proposition, qui a donc détaillé.
Jusqu'à 2003, les détenus participaient aux frais d'incarcération. Je vais rétablir ces frais d'incarcération. Aujourd'hui, ça coûte 10 millions d'euros par jour, le fonctionnement de nos prisons, quasiment 4 milliards d'euros par an. Il ne s'agit pas de faire payer les 4 milliards aux détenus, bien évidemment, mais une participation aux frais au service public de la justice, 4 milliards d'euros sur l'impôt des Français, me paraît une bonne mesure.
Une bonne mesure, d'après le ministre, mais impossible à mettre en œuvre à l'instant T, puisqu'elle n'est prévue par aucun texte ni aucune loi. Qu'en cela ne tienne, Gérald Darmanin veut donc modifier la loi. Il compte s'appuyer notamment sur une proposition d'un député centriste, proposition de loi qui devrait être examinée prochainement à l'Assemblée nationale. De cette proposition, on ne sait pas grand-chose. Quel serait le montant à payer par les détenus ? Gérald Darmanin parle d'un montant symbolique sans s'avancer davantage. Tous devront-ils payer la même chose ? Tout cela sera-t-il conditionné à la durée d'incarcération ? Pour l'instant, c'est le flou.
Cette annonce n'intervient pas dans n'importe quel contexte, Marie.
Oui, cette lettre du ministre que j'évoquais à l'instant, elle a été envoyée aux agents pénitentiaires à l'occasion de l'interpellation de 25 personnes hier lundi. 25 personnes soupçonnées d'être liées aux récentes attaques de prison enregistrées aux quatre coins de la France. Alors par cette proposition, Gérald Darmanin dit vouloir en finir avec le laxisme, politique de fermeté assumée mais critiquée par Nathalie Théot, avocate et présidente de la Ligue des droits de l'homme en France. Selon elle, faire payer les détenus ne fait pas sens et c'est une façon de ne pas s'intéresser aux véritables problèmes.
À partir du moment où la société lui demande des comptes à travers la punition de la prison, bah elle prend en charge. Elle prend en charge aussi le fait que justement on punit. C'est la société qui punit. Ça a un sens.
Donc là, ça n'aurait pas de sens qu'un ministre vienne rajouter une punition derrière, selon vous.
C'est cela, sans compter toute l'atteinte aussi à la question de la dignité, parce que ça, il ne s'y attaque absolument pas. Il y avait déjà sur Population 2024, on est encore à plus de taux d'occupation. Vous imaginez les matelas par terre avec la vermine, c'est ignoble en fait. Et donc, au lieu de s'attaquer à ça, qui est le vrai problème, il essaye d'imaginer toujours plus pour faire payer. Voilà, c'est toute l'idée, faire payer. Mais la peine de prison, c'est la punition. punition. On ne va pas au-delà de cette punition.
La présidente de la Ligue des droits de l'homme en France, interrogée par Baptiste Coulon, fermeté donc du ministre à l'égard des détenus. C'est aussi l'esprit de la proposition de loi visant à lutter contre le narcotrafic qui arrive à son terme.
Oui, parmi les mesures que contient cette proposition de loi, il y a notamment celle visant à créer un nouveau régime carcéral strict pour les détenus les plus dangereux. Alors, sans nier la réalité et la violence que génère le narcotrafic, Nathalie Théot y voit une mesure inefficace.
Non seulement inefficace, mais contre-productif. Quand on regarde ce qui s'est passé, par exemple, au Brésil, où il y a eu ce type de mise à l'écart et d'isolement, mais on a vu ça aussi dans certains États des États-Unis, il y a eu, en réalité, constitution de gangs en prison. Et c'est-à-dire un renforcement, en réalité, du plus haut niveau, du haut du panier du trafic de stupéfiants. Donc, j'alerte aussi sur l'effet contre-productif d'une telle politique.
La proposition de loi visant à lutter contre le narcotrafic pourrait être adoptée définitivement ce mardi. Un ultime vote est prévu à l'Assemblée nationale cet après-midi et elle devrait donc adopter le texte à une large majorité.
Un dossier de Marie Casadebé avec donc Baptiste Coulon.
RFI Midi.
Comme chaque jour, notre entretien avec une personnalité politique. Véronique Rigolet, vous recevez aujourd'hui Gabriel Catala, député La France Insoumise de la 6e circonscription du Val d'Oise.
Bonjour Gabriel Catala.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre sur RFI. On va parler dans un instant des raisons pour lesquelles La France Insoumise ne votera pas la loi narcotrafic cet après-midi à l'Assemblée nationale. Mais pour commencer, j'aimerais avoir votre sentiment, vous qui faites partie du groupe d'amitié France-Canada à l'Assemblée nationale, votre sentiment sur la victoire électorale de Marc Carnet au Canada, où le leader de votre parti, Jean-Luc Mélenchon, s'est rendu il y a une dizaine de jours pour apporter, a-t-il dit, un soutien affectif aux Canadiens, à nos cousins québécois, face aux volontés d'annexion de Donald Trump. Est-ce que dans ce contexte, Gabriel Catala, vous saluez cette victoire du chef du Parti libéral canadien, qui constitue un énorme pied de nez au président américain, alors que Carney est bien devenu le champion de la lutte anti-Trump?
Bien écoutez, je pense que en tout cas le pire est évité. Monsieur Carney n'a qu'une majorité très relative. Les conservateurs ont quand même remporté 144 sièges, monsieur Carney en a 168. Et ce qu'il est intéressant de voir, c'est qu'en effet, les sondages se sont trompés. Puisque encore il y a quelques mois, ils avaient une énorme avance et les conservateurs étaient presque assurés de gagner. Mais les Canadiens associent finalement le patriotisme au parti libéral et dans une situation de surenchère de Monsieur Trump et de guerre commerciale, d'augmentation des taxes de douane, etc. Finalement, ça a permis aux libéraux de se rebiffer et ça a permis au Canada d'éviter le pire. Après, moi, vous vous en doutez, je suis à la France Insoumise, donc les libéraux de Monsieur Carnet, ce ne sont pas a priori nos alliés. Nous, on est davantage proches d'un groupement appelé Québec solidaire, mais qui pour le coup n'avait rien à voir avec cette élection, puisqu'ils n'ont pas de, c'est pas un parti fédéral. C'était avec ces alliés-là que Monsieur Mélenchon a fait un meeting lorsqu'il s'est rendu à Montréal il y a deux semaines. Et j'espère que Monsieur Carnet va composer un maximum avec la gauche, puisqu'il sera obligé dans cette situation de majorité relative de composer avec la gauche du NPD et avec le seul élu vert qui siège là au Canada. Nous, en réalité, quand on regarde la composition politique du Canada, il n'y a pas d'équivalent de la France insoumise. Donc je ne vais pas me réjouir que la politique de Monsieur Trudeau soit perpétuée, mais en tout cas les Canadiens ont évité le pire et je crois que bien sûr il faut rappeler que le Canada est un peuple frère et donc s'ils sont soulagés aujourd'hui, eh bien tant mieux pour eux.
La Commission européenne, comme la France, s'est aujourd'hui réjouie de cette victoire de Carney qui renforce, dit-elle, le lien Europe-Canada. Jusqu'où doit aller, selon vous, ce soutien, et notamment celui de la France envers le Canada? Le président Macron a dit qu'on allait serrer les coudes ensemble. Jusqu'où peut-on serrer les coudes avec le Canada, selon vous? Et est-ce que votre ligne rouge reste la ratification du traité du CETA?
Oui, évidemment, bon, on est contre le CETA comme le Mercosur, donc sur ça, il y a aucun doute. Mais il faut sans cesse soutenir les Canadiens face aux menaces d'annexion de M. Trump et à cet impérialisme de prédation, cet impérialisme belliqueux qui est mis en place depuis son élection.
On retourne au Parlement français, à l'Assemblée nationale, qui doit donc cet après-midi adopter définitivement la loi narcotrafic. Seuls les élus de votre parti, la France insoumise, ne la voteront pas. Pourquoi une telle opposition contre une loi transpartisane et qui a pour but de donner à l'État des outils efficaces contre les narcotrafiquants et les violences qu'engendre dans la société ce trafic mortifère?
Alors, certes, la loi est transpartisane du côté du Sénat, mais elle ne l'est pas du côté de l'Assemblée nationale. Et ce que je voudrais saluer, c'est que nous allons voter contre cette loi cet après-midi parce que nous sommes fidèles à nos principes. Mais ensuite, même si les autres groupes n'ont pas le courage de voter contre comme nous allons quand même saisir le Conseil constitutionnel ensemble dès le vote de cet après-midi pour censurer une quinzaine de dispositions qui sont complètement liberticides. Parce qu'évidemment, on va nous raconter cette loi va nous sortir du piège du narcotrafic, c'est son titre. Mais en réalité, quand on regarde de près les dispositions qui sont prévues dans cette loi, il n'y a pas de moyens supplémentaires. Regardez, dans le budget qui est passé par 49.3, il y a la suppression de 5000 officiers de police judiciaire. Est-ce que ça permet de lutter contre le narcotrafic? Il y a un mois, le Canard enchaîné révélait qu'il manquait 250 enquêteurs spécialisés sur le trafic de stupéfiants. Est-ce que ça sert à lutter contre le narcotrafic?
On pourrait vous dire que c'est
la création.
On pourrait vous dire que c'est un début.
Spécialisé.
C'est un début.
Comment?
C'est un début, c'est mieux que rien, non?
Non, c'est aussi pas mieux que rien, ce ne sont que des mesures répressives. Par exemple, regardez, il y a la création, c'est un petit peu technique, donc c'est pas une disposition à laquelle les gens s'intéressent le plus. Il y a la création d'un nouveau parquet, chargé de lutter contre la criminalité organisée.
Qui a fait ses preuves en Italie contre la mafia, quand même.
Mais en France, nous avons déjà une juridiction qui s'appelle la Junalco, la juridiction nationale qui lutte contre la criminalité organisée, donc contre le trafic de stupéfiants, contre le blanchiment, contre le trafic d'êtres humains, le proxénétisme. Mais on a des juridictions interrégionales qui s'appellent les GIRS. Chaque année, tous les syndicats de magistrats crient au scandale parce que il y a un manque de moyens humains et financiers destinés à ces juridictions. Et donc ces juridictions finalement vont être déshabillées pour être concentrées sur un nouveau parquet avec tous les problèmes d'indépendance de la justice que ça soulève, puisque ce que demandent les magistrats en priorité, c'est l'indépendance statutaire du parquet. C'est demandé depuis des décennies et ce n'est pas ce à quoi M. Darmanin se dirige. Et donc, on a la création de ce nouveau parquet sans un moyen constant qui ne servira à rien, qui ne changera rien.
Mais pourquoi qu'il ne servira à rien avoir un parquet dédié à nouveau, comme sur le modèle italien et qui a fait ses preuves dans la lutte contre les mafias.
Parce que nous, notre mafia n'a pas le même modèle, malgré ce qu'on raconte, que le modèle italien. Et à partir du moment où nous avons déjà nos propres juridictions qui fonctionnent, il n'est pas utile d'en créer une nouvelle. C'est une disposition qu'on appelle d'affichage qui ne va pas, et cette nouvelle juridiction n'est pas adaptée au travail quotidien des magistrats et elle va créer le flou entre les compétences des juridictions qui existent déjà et les compétences de ce nouveau parquet. Ensuite, on a des dispositions qui vont accroître la surveillance en général. Nous, au Parlement, en tant que députés, nous n'avons jamais eu aucune information sur l'application de la loi renseignement de 2015 de M. Hollande et de M. Cazeneuve. Aujourd'hui, cette loi va être étendue à la criminalité organisée, donc elle permettra de surveiller aussi les militants. Par exemple, rappelez-vous, les militants écologistes, les militants de Bure, qui luttent contre l'enfouissement des déchets nucléaires, ont été poursuivis pour association de malfaiteurs. Ça relève de la criminalité organisée. Et donc on voit bien que quand on élargit les dispositifs de renseignement à des infractions toujours plus larges, au bout d'un moment, ça va s'attaquer.
C'est votre crainte aujourd'hui que les militants
écologistes soient visés. Organisations, par exemple Amnesty International, Human Rights Watch, le syndicat des avocats de France, la Ligue des droits de l'homme, et c'est toutes ces associations et tous ces professionnels qu'il faudrait écouter.
Donc c'est votre inquiétude, vous dénoncez donc.
Donc nous voyons dans cette loi une terrible régression en matière de liberté fondamentale.
Vous
en parliez juste avant, les nouveaux quartiers sécurisés.
De haute sécurité. Dans les prisons, les trafiquants les plus dangereux.
Voilà, correspondent. Oui. Alors, c'est ce qu'on nous dit, les trafiquants les plus dangereux, mais en réalité, ça s'applique à la criminalité organisée. Et la criminalité organisée, c'est un spectre d'infractions extrêmement large. Et ce type de prison, qui est un lieu où finalement la dignité des détenus est absolument pas respectée. C'est ce que le Conseil de l'Europe appelle de la torture blanche. L'isolement existe déjà d'ailleurs dans les prisons françaises. Ce type de quartier hautement sécurisé, le même modèle a été supprimé par Monsieur Badinter dans les années 80. Quel est l'intérêt de revenir 40 ans en arrière en termes de respect de la dignité des détenus?
Des mesures trop répressives, dites-vous, on a entendu vos inquiétudes. Vous dites qu'il faut passer par une logique de prévention. Quelle est cette logique qui permettrait de lutter contre cette ultra-violence et les narcotrafiquants, selon vous?
Ce qui permet de lutter avant tout contre la criminalité organisée et contre sa complexité, c'est avant tout des moyens humains, des moyens concrets en termes de renseignement territorial, des moyens concrets en termes de police judiciaire. Or, ces moyens ne sont pas là. Il faut des moyens aussi en termes de justice, puisque ce sont soit les parquetiers, soit les juges d'instruction qui vont mener les enquêtes. Or, il nous manque actuellement 50 juges d'instruction en France, puisque les juges d'instruction devraient avoir en moyenne 50 dossiers à traiter. Et ils en ont parfois, regardez par exemple ce qui se passe à Nanterre, 122 dossiers en même temps. Comment voulez-vous que des enquêtes avancent quand on a 122 dossiers à traiter en même temps,
des viols, Gabriel des meurtres, Catala. Plus de moyens, dites-vous, pour lutter contre les narcotrafics. Merci Gabriel Catala, bonne journée.
Merci beaucoup.
Entretien à retrouver sur RFI.fr.
RFI, la France à midi.
On les appelait les boat people, les Vietnamiens fuyant leur pays par dizaines de milliers après la chute de Saïgon, la débâcle américaine et l'arrivée au pouvoir dans le Sud-Vietnam du régime communiste qui a réunifié le pays dans les années 70. Beaucoup avaient alors été accueillis en France et 50 ans plus tard, notre reporter Baptiste Coulon est allé rencontrer ces réfugiés et les générations suivantes.
La journée du 30 avril 1975, c'est une journée que je n'ai jamais oubliée.
An Nin Tran est officier dans l'armée du Sud-Vietnam pendant la guerre. Ce 30 avril 1975, lui et la centaine d'hommes qu'il dirige n'ont d'autre choix que de se rendre.
Au niveau de la nourriture, on n'a pas suffisamment pour résister. Et au niveau des munitions aussi, nous avons déposé les armes. Nous sommes très, très tristes. Mais on peut pas faire autrement.
Le nouveau régime l'emprisonne durant 3 ans, puis il fuit son pays à contre-cœur, embarque avec lui les traumatismes de la guerre. Direction la Malaisie en bateau, puis la France où naissent ses enfants, des enfants curieux de connaître les origines du père.
À l'époque, je le promettais de l'amener au Vietnam, l'endroit où je suis né et sa mère aussi. Mais je dis comme ça, mais vous savez, les enfants, quand on dit quelque chose, ils se souviennent. Et il m'a demandé. À l'approche du débat, j'ai encore négocié avec mes enfants que pour moi, c'est pas encore le moment. Parce que je supportais pas les communistes.
Le voyage aura finalement lieu en 2019. Un retour au pays 40 ans après l'avoir quitté. Depuis, c'est dans un livre adressé à ses enfants qu'il a couché ses souvenirs.
De l'armée jusqu'à la prison et quand je suis venu en France.
Vous le racontez tout ?
Presque tout.
Car une partie du récit est toujours douloureuse, alourdie par le tabou de la guerre et le déracinement.
Je raconte pas la tristesse que j'ai vécue, je leur impose pas en fait. C'est pas leur histoire.
Avec ses enfants, Tran Phung Vo Nguyen fait aussi le choix de l'économie des mots. Lui a quitté le Vietnam à l'âge de 9 ans.
On est parti sur un petit bateau, on n'est pas très nombreux, une vingtaine de personnes.
Mais dans son cas, dit-il, ses enfants se préoccupent assez peu de son histoire et du passé.
Comme ils sont, entre guillemets, nés en France et ils ont une mentalité française, le Vietnam, pour eux, c'est un pays de touristes. Même pour moi, maintenant, si je les emmène, c'est vraiment pour le paysage.
Et absolument pas l'aspect mémoriel.
Oui, mémoriel, non. Ce sera avec nous ici, plutôt.
À 18 ans, Vo Minh Quan, né en France, confirme. Il pose peu de questions à ses aînés, par crainte de réveiller des blessures, par volonté aussi d'écrire sa propre histoire.
J'ai étudié la géopolitique au lycée, donc je connais l'importance de la mémoire et du devoir de mémoire, mais pour autant, j'essaie de pas me définir par mon passé et par mes origines. J'essaie de me définir par mes propres actions. Je pense que c'est important de savoir ce qui s'est passé, de savoir comment ça a affecté ma vie indirectement. C'est important d'en avoir conscience, mais pour autant, je n'ai pas envie que ça influence ce que je ferai à l'avenir.
Mais le jeune homme participera tout de même aux commémorations organisées à Bussy-Saint-Georges, où une petite stèle rend hommage aux immigrés vietnamiens.
Un reportage de Baptiste Coulon à réécouter quand vous le voulez sur l'application RFI Pure Radio. Vous restez avec nous, on se retrouve dans une minute pour l'actualité européenne. Une demi-heure d'actualité du continent avant le journal de midi, temps universel.
RFI, la sélection du mois.
Florence Adoni. C'est où Georges?
RFI Musique.
Le journal en français facile.
Bonjour, je m'appelle Priyanka et je suis indienne. J'écoute le français facile depuis un an. Les mots utilisés sont simples et très utiles pour la vie quotidienne. En tant que débutante, je l'ai trouvé génial car les podcasts proposent différents types de sujets intéressants décrits en français simple.
Le journal en français facile, c'est du lundi au vendredi à 16h TU sur RFI et quand vous le voulez sur françaisfacile.rfi.fr.